wearing a mask and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the gouvernement du Québec.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'ère du diable. À l'antenne de CKUT 90,3 Montréal. Ce soir, un entretien avec Corina Chutomila et Alexandre Gurita autour du livre Esthétique de l'art invisuel, paru il y a quelques semaines aux éditions du Panthéon à Paris. L'entretien dure environ 50 minutes et en préambule à cet entretien, et puis pour conclure l'émission, nous écouterons dans son intégralité l'album Delancey Street Station des artistes new-yorkais Cloudy Love and Pink Louds. Bonne écoute.
She tells me I got soul. She sees it when I sing. Yes, little girl, she tells me I got soul. She sees it when I sing. I tell a girl your eyes are getting old. You couldn't tell a mountain from a hole. 'Cause I can't feel a thing. No, I can't feel a thing. No, not even when I sing. I've got no soul in my body. Soul in our brains. Thank you.
Entretien avec Alexandre Gurita et Corina Chutomila à propos du livre Esthétique de l'art invisuel.
Alors, voilà, j'ai passé le link de Corina au peigne fin. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce livre. Bravo, Corina. Et comme on est à la radio, ben, je vous souhaite la bienvenue en onde.
Radio Scout, c'est ça?
CKUT.
Oui. Alors, ben, merci beaucoup, Eric, pour cette invitation qui me semble vraiment bien par rapport au livre de Corina.
Corina Mila, donc tu es professeure, enseignante à Sciences Po et à Paris 4, et tu viens de faire paraître ce livre qui s'appelle « Esthétique de l'art invisuel ». Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour te présenter?
Je voulais juste tout d'abord te remercier pour l'invitation. C'est très intéressant culturellement pour échanger, voir comment c'est perçu, comment ce livre est perçu au Canada. Et voilà, c'est très intéressant pour moi de te revoir et de se revoir ici avec Alexandre et de discuter. Et par rapport au livre, non, je n'ai pas de choses à ajouter. J'étais en train de le relire avant que je vous voie ici, parce que j'ai essayé de me rappeler exactement ce que j'avais dit. Et j'ai trouvé quand même, j'ai découvert des choses assez intéressantes moi-même dans le livre, mais j'en dis pas plus. Hein.
Ça va sortir, on va en parler au fil de l'entrevue. Alexandre Gurita, légendaire artiste de l'invisuel, directeur de la Biennale de Paris, dont tu as fait la captation institutionnelle en 2001, je crois.
Ouais.
Tu es directeur aussi de l'école ENDA, l'École nationale d'art en France. Mais on aurait pu l'appeler l'École nationale d'art invisuel quand même. Hein?
Non, parce que en fait, il ne faut pas laisser ni la primauté, ni la domination de l'art visuel sur l'art. Donc si on a en France des écoles nationales d'art qui sont beaux-arts ou arts visuels par défaut, on peut aussi avoir une école nationale d'art qui soit invisuelle par défaut.
Alors,
l'École nationale d'art elle-même qui est une captation institutionnelle en quelque sorte. Mais
parce que le terme École nationale est un terme un peu réservé aux écoles contrôlées par l'État français.
Oui, c'est un terme qui est réservé aux décisions autoritaires de l'État français, notamment du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'il y a en France 55 écoles d'art qui sont labellisées par l'État. Et donc ça, c'est la France qui a inventé l'institution de l'art n'accepte pas que dans l'art, il puisse y avoir des initiatives libres, comme par exemple des gens qui disent « bon, on va faire une école nationale d'art ». D'ailleurs, la réaction de l'ANDEA, Association nationale des directeurs des écoles d'art, a été directe en fait. Maud Lemarzic, qui en est la présidente, elle m'avait dit, elle a voulu interdire la parution d'un article dans le UFPost qui parlait de l'ENDA. Elle a demandé à la journaliste de couper cette partie qui parle de l'ENDA parce que c'est du fake, tout comme la Biennale de Paris, ce qui est évidemment un honneur, à mon avis. Mais en fait, elle disait... personne ne peut faire en France une école nationale d'art, il n'y a que l'État qui peut faire. Et moi, je lui ai dit, nous, l'État. Donc, du coup, ça l'a mis en colère et en rage. Mais en fait, c'est qu'il y a... La France, en fait, c'est la Corée du Nord de l'art. Donc, voilà.
Ça soulève une question intéressante pour Corina. Corina, t'associer à cette entreprise d'Alexandre Gurita, indirectement à la Biennale de Paris et à l'ENDA, est-ce que ça comportait quand même des risques pour toi sur le plan politique ou sur le plan même académique?
Ah, c'est une question très intéressante. Merci de l'avoir posée. Je pense, oui. J'ai beaucoup réfléchi, surtout pendant le processus d'écriture. J'ai été appelée par une journaliste qui faisait un entretien, une interview sur Gary Bigot. Et elle a lancé des mots assez politiques dont je me justifie un peu dans la préface du livre, dans l'introduction, parce que elle m'avait dit que peut-être que l'idée de partager l'art à tout le monde était une réminiscence du parcours d'Alexandre, qui était d'origine roumaine et forcément, par extension, corollairement, il était communiste. Donc, cette idée du partage, du partageur, ce n'était finalement qu'un raccourci vers le communisme. Et donc, je pense que les gens peuvent surinterpréter, ils peuvent extrapoler, et que j'aurais pu, entre guillemets, sans le faire à moi-même. Donc, j'ai dû justifier beaucoup de choses dans le livre. Et aussi, je pense que un autre choix politique que j'ai assumé entièrement, c'était de parler en fait un peu d'une manière négative du marché de l'art et le présenter tel que les artistes de l'invisuel le voyaient, comme étant toxique, comme étant celui qui nomme. D'ailleurs, je crois que c'était quelqu'un qui s'est énervé lors de la présentation, lors du lancement du livre au Palais de Tokyo, parce qu'il disait qui est le marché, qui sont ces gens, de quoi on parle. Donc, c'est des sujets qui fâchent, c'est des sujets qui dérangent. Finalement, on n'est pas si libre de s'exprimer. Et je pense que c'était un risque. Mais finalement, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, malgré les conséquences, malgré les préjudices que une prise de position pourrait m'apporter.
C'est quand même incroyable que cette journaliste t'ait téléphoné pour dire voilà, c'est les idées d'un communiste parce qu'il est né en Roumanie alors qu'il a quitté la Roumanie, parce
Il y
qu'il
a 30 ans.
ne se sentait pas très bien, je crois, d'après ce que j'en sais. Alors c'est quand même incroyable. Et même s'il était communiste, qu'est-ce que ça changerait? En quoi ça invaliderait la position prise par des artistes de l'invisuel ou ta recherche, Corinna? Je trouve ça incroyable quand même. C'est comme si c'était une chasse aux sorcières de l'époque du macartisme ou qu'est-ce qui expliquerait ce genre d'attitude, de réaction de la part de cette journaliste?
Alors ça, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Peut-être que on cherche à expliquer des phénomènes, on cherche à poser des étiquettes sur tout. Si c'est une réalité que l'on ne comprend pas, forcément, on doit trouver un mot qui puisse la définir à tout prix. Et donc, certainement, on se pose, l'art est politique, on le dit tout le temps, et forcément, on doit trouver quelque chose pour dire que l'art invisuel, il est aussi politique, et quel mot... Voilà, on va chercher à la source et on va chercher dans le parcours des artistes pour voir quel mot on pourrait trouver pour définir justement la position politique. Alors que dans toute l'histoire de l'art, on ne parle que du fait qu'il faut séparer l'art de l'artiste. C'est un paradoxe. Mais.
Mais en fait, c'est comme s'il fallait trouver une catégorisation comme un label. Il fallait labelliser l'art invisuel comme ayant une posture politique précise. Ça, c'est ça que tu veux dire?
Ce qui est très intéressant de voir que tout le monde s'agite autour de cette question, l'art et l'artiste, l'écrivain et la littérature sont deux choses disjointes et distinctes et il ne faut pas les mélanger du tout. Alors que dans les interviews, quand on voit quelque chose qui est nouveau, qui sort un peu du lot, on va justement essayer de ramener cela à la biographie des artistes. Et essayer de définir l'art par la biographie des artistes, ce qui est le contraire de ce qu'on soutient et de ce qu'on promeut depuis des centaines d'années.
Mais en fait, c'est comme s'il fallait labelliser l'art invisuel comme ayant une posture politique précise. Ça, c'est ça que tu veux dire?
Ce qui est très intéressant de voir que tout le monde s'agite autour de cette question, l'art et l'artiste, l'écrivain et la littérature sont deux choses disjointes et distinctes et il ne faut pas les mélanger du tout. Alors que dans les interviews, quand on voit quelque chose qui est nouveau, qui sort un peu du lot, on va justement essayer de ramener cela à la biographie des artistes. Et essayer de définir l'art par la biographie des artistes, ce qui est le contraire de ce qu'on soutient et de ce qu'on promeut depuis des centaines d'années.
Très juste.
Alexandre, veux-tu ajouter quelque chose à ce sujet? Tu
Moi,
t'es
c'est.
qualifié de communiste. Comment réagis-tu à ça?
Ben, je suis très honoré d'être un communiste et d'avoir la liberté de parole. Je dirais là, j'ai une infinie reconnaissance envers Corinna d'avoir structuré philosophiquement en rapport avec l'histoire de l'art, d'avoir construit toute une réflexion autour de l'invisuel qui dépasse, disons, des positionnements individuels et qui permet à la notion d'art en visuel de progresser, de fracturer l'art visuel au maximum, si possible, pour donner à l'art la possibilité de ne plus être victime de l'emprise de l'art visuel sur l'art. Je pense que cet ouvrage est fondamental et, en tout cas pour moi, Corinna a un rôle très important là du coup dans l'histoire de l'art parce qu'elle a non seulement elle a pris des risques, mais elle s'est investie à fond dans cet ouvrage pour construire une réflexion autour de pratiques qui sont pas d'ailleurs en fait des pratiques qui sont pas toutes les pratiques que Corinna cite dans son ouvrage ne sont pas exclusives, c'est juste une sélection. Qu'elle a, sur laquelle elle a construit, elle a articulé une réflexion. Je pense que, ben j'espère en tout cas, que ce sera un livre qui va modifier l'histoire de l'art. Parce que c'est, en fait, nous vivons dans un communisme de l'art. C'est ce que j'appelle la pratique unique. Il existe en français une expression disons, qui est la pensée unique. Mais en fait, dans l'art, si par analogie, on peut dire que l'art vit sous l'emprise de la pratique unique. C'est-à-dire que si l'art n'est pas visuel, l'art doit forcément être visuel, c'est-à-dire il doit forcément se matérialiser, s'incarner sous format d'œuvre d'art, matérielle ou immatérielle, et qu'en fait, si l'art ne s'incarne pas sous la forme de l'art visuel, c'est qu'il n'y a pas d'art. Et en fait, ce que l'art visuel dit, et là, il y a un nouveau paradigme dans l'art, il dit, mais en fait, l'art visuel, c'est une partie de l'art et non pas tout. Il y a d'autres choses. Et en fait, l'idée de l'art visuel, c'est de casser le monopole de l'art visuel sur l'art. Et ça, c'est un changement vraiment très important. Maintenant, je pense qu'on est au début de quelque chose et il faut voir tout va se dérouler dans le temps, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet ouvrage condense une réalité de l'art qui prouve en fait que on n'est pas, les artistes ne sont pas obligés d'être, disons, d'être, d'obéir à la pratique unique. C'est un, disons, c'est un, une lecture de liberté. Si on peut dire ça, l'ouvrage écrit par Corinna.
Quelle est, selon vous, la différence entre les pratiques invisuelles que tu viens de nous décrire très sommairement et les pratiques antérieures qui déjà s'approchaient de ce que Lucy Lippert appelle la dématérialisation de l'œuvre d'art? Et Alexandre, on a travaillé ensemble assez souvent depuis presque 20 ans maintenant. Alors, on a utilisé, je vous ai proposé le terme manœuvre qui vient de Québec. Il y a le terme de situation construite chez les situationnistes qui date des années 50, hein, qui vient en fait d'un Québécois, un Français immigré au Québec qui s'appelait Patrick Straram, qui a été le premier à parler de construction de situation à Debord. Et Debord a repris le concept et l'a développé. Alors, c'est quand même une tradition qui remonte à assez loin, plus de 50 ans, de créer des œuvres, ou créer, enfin, de faire de l'art de manière invisuelle. Comment la pensée sur l'invisuel contribue-t-elle à poursuivre cet élan ou à briser cet élan en apportant autre chose?
Alors, tu veux répondre, Alexandre?
Oui, après toi, après toi.
Non, vas-y, s'il te plaît.
Ben, en fait, c'est que l'invisuel ne vient pas de nulle part, comme Corinna, je me permets, hein, Corinna, de le dire. Tu le dis bien, en fait, il vient de quelque part. Rien ne vient de rien, et l'art ne fait pas exception. Et c'est sûr qu'il y a pendant tout le XXe siècle, et même avant, hein, il y a eu des artistes qui ont tenté de s'affranchir, disons, des limites de l'art visuel, c'est-à-dire des limites de l'œuvre d'art, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Et ces accidents, disons, ce que moi j'appelle ces accidents ou ces actions ont été, disons, des tentatives de s'affranchir du format conventionnel de l'art, tout simplement, pour aller vers un ailleurs. Mais ces artistes sont toujours revenus par la suite à des pratiques conventionnelles. On prend par exemple Joseph Beuys, il a genre trois actions sur tout son parcours artistique, trois actions que l'on peut qualifier dans le visuel. Mais à part ça, sa pratique est une pratique conventionnelle. Et donc, ces artistes ont cherché à briser, en quelque sorte, à bouger les lignes, comme on dit aussi, et à, disons, aller vers un ailleurs de l'art. Et c'était des tentatives très réussies, mais elles étaient toujours ponctuelles et englobées par des pratiques conventionnelles. Or que là, l'idée de l'invisuel, c'est de dire que un artiste peut construire tout son parcours, une démarche entière, après l'œuvre d'art. Pas seulement avoir une ou deux actions, mais construire toute une pratique, toute une démarche en visuel. Moi, je distingue entre démarche et projet. Un projet, c'est un coup ponctuel. Une démarche, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et à l'échelle d'une vie. Par exemple, Gary Bigot, c'est un artiste en visuel parce qu'il vient de l'art visuel, mais depuis près de 40 ans, il a une démarche en visuel. Et au sein de cette démarche, il a approfondi, il a modifié. Il n'était pas dans un formalisme ou dans ce qu'on dit en art, en maniérisme. Il n'est pas resté figé sur ses acquis du début, mais il a toujours essayé d'approfondir, d'élargir, d'aller plus loin dans son propre travail, ce qui démontre très clairement que, disons, l'après l'œuvre d'art, ce n'est pas un vide, ou si c'est un vide, alors c'est un vide prolifique.
Mais là, ça soulève deux questions. La première, et j'aimerais aussi que Corinna réponde peut-être, tout de même, c'est vrai, Alexandre, des gens comme Beuys ont fait quelques œuvres invisuelles, mais il y a des gens qui se sont dirigés vers l'invisuel et qui y sont restés jusqu'à la fin de leur vie, qui ont commencé comme Alan Caprao, évidemment, je pense à lui, en créant de l'art visuel, puis ensuite des happenings, et puis les happenings étaient de plus en plus proches de la vie quotidienne, jusqu'à ce que finalement, ils déclarent que c'est la vie quotidienne qui devienne de l'art. Je pense à Teixing Chieh aussi, qui a créé des actions, des espèces de ce qu'on appelle des performances, mais qui sont, à mon avis, plus que des simples performances, qui duraient un an, où il y avait une tâche à accomplir pendant un an extrêmement contraignante. Mais après cette année, donc cette action d'un an, il a déclaré pendant 13 ans, je ne documenterai plus mes actions, je ne documenterai plus rien. Je vais faire de l'art pendant 13 ans, mais je ne documenterai pas cet art. En fait, ce que ça revenait à dire, c'est qu'il ne faisait plus de production visuelle et que la vie était son art et que, contrairement à toutes les actions qui précédaient, il ne documentait plus. Donc, il y a quand même eu des gens qui, comme ça, et Teixing Chieh a gardé cette ligne-là maintenant. Il ne fait plus d'actions visuelles non plus. Il y a quand même des artistes qui sont des précurseurs, comme Caprao et Teixing Chieh.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a un début, et effectivement, l'art invisuel, tel que je l'ai décrit dans cet ouvrage, n'a pas émergé ex nihilo. Il s'appuie sur quelque chose, le résultat des pensées antérieures. Et ce que je voulais dire est aussi que ces artistes, finalement, qui ont décidé de consacrer la fin de leur carrière artistique à l'art invisuel, montrent en fait peut-être un raisonnement différent, des paradigmes qui ont changé au fil de leur carrière, mais peut-être montrent aussi un problème financier, parce que c'est un choix qui a des multiples implications, autant d'un point de vue du raisonnement, de la réflexion, que d'un point de vue financier. C'est-à-dire l'art invisuel, jusqu'à très récemment, n'a pas pu être financé, n'a pas pu être acheté et ne permet pas aux artistes de vivre. Donc, pour ajouter un peu, pour rebondir sur ce qu'Alexandre disait, je pense qu'avoir une carrière d'artiste invisuel est possible aujourd'hui, alors que ça ne l'était pas il y a 50 ans. Et une des choses qui était intéressante et qui a été évoquée, c'était la création d'une crypto-monnaie pour l'art invisuel, la création de cette idée de NFT. Donc, aujourd'hui, on peut subvenir aux besoins des artistes. Ces artistes peuvent se permettre d'avoir une carrière, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Oui, Duchamp, il a fait un ready-made. Oui, il a assumé son choix. Il était déjà riche, il était déjà connu. Il a pu faire tout cela. Oui, tous les autres artistes, quelqu'un parlait de John Cage, effectivement. Ils ont pu faire, mais à un certain stade de leur vie, hein, une certaine stabilité, lorsqu'ils ont atteint une certaine stabilité économique. Et, enfin, je pense que c'est un point qu'on aborde rarement, la question de l'argent, mais elle est très importante.
L'essentiel, je dirais, parce que c'est, disons, c'est l'argent qui valide l'idée, la pratique. C'est sûr que si tu t'appelles Marcel Duchamp pendant 60 ans, en fait, tu es super connu et les 10 dernières années, en fait, tu te détaches de ce qui t'a fait connaître, en fait, et du piédestal sur lequel tu es assis. Disons, c'est pas mal, c'est une bonne retraite, je dirais. Mais c'est différent que, par exemple, quand tu as un parcours de 50 ans d'artiste en visuel ou de praticien en visuel. Là, j'enchaîne un peu sur ce que Corinna disait par rapport à l'économie, puisque en fait, j'ai une vieille obsession par rapport à l'économie. J'ai été confronté depuis longtemps à des situations où on disait, ah, mais tiens, tel artiste, il fait quoi? Ah, il bat, il peint des murs dans un appartement. Ben non, c'est 0 euro, en fait. À la limite, donc, file-lui 50 euros. Ah oui, pendant que l'autre type, je ne donnerai pas de nom, évidemment, parce que si parler en mal, c'est parler en bien, donc je ne cite pas de nom. Pendant que tel autre artiste, on est à 40 ou à 45 000 euros de budget pour son œuvre. Donc pour moi, c'était inacceptable. Je me suis dit, le défi le plus important de ces pratiques, c'est de formuler une économie sur mesure. Et c'est justement là, depuis un an, on travaille sur un projet donc qui avance à toute vitesse tous les jours, qui s'appelle DIAM, Decentralizing Visual Art Market, avec le numéro un mondial en blockchain de partage de connaissances, Ocean Protocol. Et avec Datarella, une société spécialisée en architecture de blockchain, et la Biennale de Paris. Et l'Europe participe en partie au financement de ce projet, mais l'idée, c'est de créer un marché sur mesure, de créer un espace économique qui puisse valoriser humainement, financièrement, symboliquement, des pratiques artistiques en visuel. Des pratiques artistiques sous forme d'expérience. C'est-à-dire qu'on pourra participer à des expériences. Je veux participer à l'expérience de, je ne sais pas, par exemple, Bernard Brunon, qui peint des appartements et des maisons. Mais j'achète mon droit comme si je vais au cinéma. Je paye 20 euros pour participer à telle expérience qui va se dérouler tel jour et tel lieu. L'idée, en fait, c'est de casser la verticalité totalitaire, justement, du marché de l'art où 1% d'artistes prennent 99% des ressources financières de l'art et de dire, voilà, tout le monde peut être participant, co-auteur, collectionneur d'art, si on peut dire ça, avec des montants très, très raisonnables, genre avec 20, 50 euros. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de dynamique et très peu cher. C'est tout le contraire du marché de l'art. Donc là, nous, on est en train de faire une levée de fonds de 2 millions et demi d'euros auprès des crypto-sphères, essentiellement, pour donc construire cette application qui est censée être un vecteur ou l'outil de ce marché de l'art du 21e siècle. J'espère le 22e et 23e aussi. Mais où en fait, mon obsession, c'est une obsession qui est certainement partagée par d'autres, c'est de dire il ne doit pas y avoir de jugement esthétique. Tous les artistes sont libres d'inventer leur art. Les peintres de dimanche, les installationnistes, les gens qui font encore du happening 75 ans après son invention, mais aussi d'autres gens. Il faut être dans une non-discrimination esthétique. C'est-à-dire que les artistes ne devraient pas être jugés en fonction de l'esthétique qu'ils génèrent, si je peux dire ça, mais en fonction du fait que c'est des artistes, donc ils méritent de vivre de leur travail. Et donc c'est ça l'idée et le défi de ce projet. Parce qu'il faut savoir que sous couvert de liberté, l'art est vraiment sous l'emprise d'un d'un hypercapitalisme exacerbé, je dirais. Donc ça, c'est un projet en cours. On travaille dessus. La levée de fonds est prévue pour la mi-février.
Merci Alexandre Gurita. Je
Il y
vais.
a un site internet, c'est diam.market ou Decentralized Individual Art Market.
Ça, c'est fascinant. Je vais.
Voilà, ça c'est justement là, j'ai un rendez-vous à 18h avec deux personnes pour avancer dans ce projet. Mais je dirais le c'est vraiment très très important parce que c'est bien d'avoir des bonnes idées, d'être inventif, de proposer de nouvelles choses, mais à partir du moment où la société et surtout le milieu de l'art dénigre l'artiste pour des raisons économiques et le discrimine pour il l'exclut en fait
Bien
pour des
sûr,
raisons
bien
économiques,
sûr.
c'est que là il y a un gros problème,
Oui.
hein.
Je voudrais rebondir sur Alexandre Gurita, quelque chose que tu viens de nous mentionner, c'est la question de l'esthétique dans l'art invisuel. Et je vais lire un passage du livre de Corina Mila Hutto, qui est avec nous aussi. Dans l'art invisuel, il est préférable de se référer à l'esthétique plutôt par la connaissance sensible promue par Baumgarten que par le jugement du goût kantien. Le beau n'est pas la quête de l'invisuel, ou en tout cas, je n'ai rencontré pour l'instant aucune démarche qui marie le beau à l'expression invisuelle. Dans l'invisuel, il est question d'activer chez le récepteur une sensibilité émotionnelle et de confronter celui-ci à des considérations qui sortent de son champ de réflexion. L'artiste de l'invisuel se fait voyant, il tend un miroir au monde et lui fait voir les différents angles d'une même image projetée, infléchissant ainsi le regard monosémantique des hommes. Alors ça, c'est intéressant parce que il y a quand même, malgré tout, même si on n'est pas dans le jugement de goût kantien, il pourrait y avoir une manifestation de ce type de jugement de goût kantien chez ce que Mila, tu appelles les partors. Donc, au lieu de dire spectateurs, ce sont des gens qui partagent. Tu as choisi le mot latin, partors, pour justement pas te faire accuser d'être pro-communiste, d'après ce que j'ai compris, à la lumière de ce qu'on a dit au début de l'entretien. Donc, pourriez-vous nous parler un peu de ça? Parce que c'est certain que quelqu'un qui paye 20 euros pour aller voir, par exemple, Bernard qui peint des murs ou qui fait une rencontre avec un artiste, peut aimer ou ne pas aimer. C'est-à-dire que esthétiquement, il y a quand même une expérience esthétique qui n'est peut-être plus de l'ordre visuel, mais qui est de l'ordre justement de la connaissance sensible. Et à ce moment-là, il peut quand même avoir un jugement sur cette expérience.
Oui, après, on ne peut pas endiguer la réception. Je pense qu'on reste dans cette perspective millénaire à partir du moment où l'œuvre elle est achevée ou à partir du moment où elle est perçue par un observateur, elle n'appartient plus à l'artiste. Elle appartient au jugement du spectateur, du public. Ou même si ce public n'est pas forcément avisé, ou même si ce public n'est pas forcément au courant du fait qu'il est face à une pratique artistique, il va juger. Donc oui, de ce point de vue, nous sommes dans le jugement kantien, mais seulement du point de vue du partiteur, du spectateur, mais du point de vue de la personne qui crée, du praticien, de l'artiste invisuel, il n'y a plus de désir d'exprimer le beau, de créer quelque chose qui reste dans les limites de l'analyse kantienne.
Alexandre Gurita, as-tu quelque chose à ajouter à ce sujet?
Non, non, parce que je quand les choses sont bien dites et justes, je ne peux qu'être d'accord. Mais je reviens un peu avant, par exemple, quand je vois Nicolas Rivard, donc un artiste canadien, qui fait des petits boulots à titre de support pour sa pratique artistique, qui n'arrive pas à vivre de son travail intégralement. Il n'arrive pas à vivre de ses petits boulots comme pratique artistique.
Ben, il est quand même enseignant, donc je ne sais pas si on peut appeler ça un petit
Non,
boulot,
non,
mais
mais
c'est quand
en dehors, s'il n'était pas enseignant, il n'aurait pas pu.
Oui.
Et c'est un gros problème. Par exemple, toi, tu devrais aussi pouvoir vivre qu'avec des manœuvres comme la chèvre phénomène.
Bien sûr, ou Saint Thomas l'imposteur, bien sûr.
Voilà, ou Saint-Thomas l'imposteur, ou bien Guillaume Dufour. par exemple, qui a participé à une biennale en Inde et qui a demandé au mec qui faisait le ménage, où tous les artistes dormaient dans un dortoir sûrement, de ramasser toute la poussière que ces artistes ont laissée. Et ensuite, ils vendaient la poussière à la sauvette dans les rues, je ne sais pas dans quelle ville en Inde. Donc, tu vois, je pense que pour quelle raison on vend un tableau de Richter à 30 millions d'euros et une poussière de Guillaume Dufour à rien du tout. Là, il y a une discrimination évidente.
Ben c'est le marché de l'art, ça, c'est le fonctionnement du marché
Voilà.
de l'art qui est un peu comme la bourse.
C'est
Il y a des
ça.
valeurs
Donc, pour moi, ça me pose un
symboliques.
problème. En fait, non, je me trompe. Un énorme problème. Et ce n'est pas que mon problème, c'est le problème de tout un ensemble de personnes.
Donc, ce n'est pas nécessairement pour toi l'idée que tout le monde peut être un artiste, c'est plutôt l'idée que ceux qui décident d'être des artistes, quelle que soit la forme d'art qu'ils ou elles adoptent, devraient être capables de vivre de son art.
C'est ça. La société doit mettre en place un mécanisme économique qui devrait leur permettre de vivre de leur travail. Je ne vois pas pourquoi les crottes de Richter se vendent à 50 euros, à 50 millions d'euros et je ne sais pas, un travail de Bernard Brunon à 2000 euros. Il y a aucune raison, sauf la discrimination esthétique. Donc voilà, ça c'est la question économique qui pour moi me semble fondamentale, mais il y a aussi l'éducation, je pense. Et j'espère que les écoles d'art au Canada et les artistes, le milieu de l'art, et j'espère plus que ça, s'intéresseront à ce livre qui est fondamental, qui n'est pas très cher, qui est accessible aussi parce que je me permets d'affirmer que Corinna, en fait, un de ses défis, il me semble, c'était de le rendre accessible, de rendre accessible à tous une certaine complexité.
Pour les auditeurs, il serait bien de rappeler que le livre s'intitule Esthétique de l'art invisuel. L'auteur est avec nous ce soir, Corina Mila Hutto, et c'est paru aux éditions
Édition du Panthéon.
du Panthéon. Voilà. C'est un livre fascinant.
Je voulais ajouter, en fait, concernant le passage que tu as évoqué, Eric. Je trouvais, d'ailleurs, je pense que j'ai dû lire Rimbaud avant parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de très rimbaudien dans le passage, non?
Peut-être, oui.
J'ai juste cette impression, surtout quand je dis l'artiste de l'invisuel se fait voyant et tend un miroir au monde. J'ai trouvé la partie. Et la raison, je voulais dire que je n'ai pas encore rencontré d'artiste qui fasse de sa quête artiste invisuel, qui fasse de sa quête, qui ajoute dans sa quête la recherche du beau. Mais pour l'instant, je n'ai pas rencontré tous les artistes de l'invisuel. Et pareil, c'était une des critiques qui m'a été envoyée récemment par email en me disant que le livre n'était pas exhaustif et que je n'avais pas contacté tous les artistes de l'invisuel pour les inclure dans l'ouvrage.
Quel que soit le livre qu'on va écrire, on va toujours se faire dire ça. Donc ça, c'est normal. Ne t'inquiète pas.
Je voulais en profiter pour dire que le livre, il n'a pas la prétention d'être exhaustif. Ni d'un point de vue des artistes que j'ai choisis pour montrer l'historique, le contexte historique et l'avant invisuel, ni d'un point de vue du contexte invisuel, les artistes de l'invisuel. J'en ai cité quelqu'un, j'en ai rencontré quelqu'un. Certainement, il y en a plein d'autres qui sont, mais ce n'était pas ni un choix politique, ni un choix personnel. Enfin, c'était tout simplement un choix par rapport aux moyens qu'on a eu. Après, il y a eu la pandémie, donc c'était de plus en plus compliqué et certains, tout simplement, ils n'ont pas voulu collaborer. Donc les forcer à faire partie de l'ouvrage ne me paraissait pas non plus une attitude adéquate.
Là, Eric, tu parlais de l'accessibilité. En fait, effectivement, le monde, là, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres. La seule chose qui ne bouge pas, c'est que tout bouge. Le monde est en transformation constante depuis l'existence même du monde. Et je pense que dans cette transformation, il y a des changements de paradigme à tous les niveaux de la société, dans les sciences, dans la société, dans les droits humains, y compris dans l'art. Et par exemple, le ready-made était un changement de paradigme, parce que dire que une œuvre d'art pouvait ne pas être faite de la main de l'artiste, ben, c'était une révolution majeure. Au même titre, une des particularités de l'invisuel, c'est de dire que mais finalement, tu n'as pas besoin de faire des études de 6 ans aux Beaux-Arts de Paris ou des je ne sais pas combien de mémoires et des années d'études dans des écoles prestigieuses pour être un artiste ou une artiste. Et qu'au fond, l'invisuel, c'est une facette ou un aspect de sa vie, une partie de son cerveau, de son ensemble, qui te permet d'être créatif dans ta vie. Je pense que si on pouvait scanner le monde, on pourrait observer beaucoup de monde qui sont très créatifs dans leur quotidien, dans leur profession, et qui sont beaucoup plus créatifs que les artistes, disons, de l'art en visuel, qui sont très peu inventifs, voire pas du tout inventifs. Et c'est ça, une des forces, à mon avis, de l'invisuel, c'est de dire, et un des points dans ce changement de paradigme de l'art, c'est de dire que finalement, ben, si tu fais de ta profession, de ton action, quelle qu'elle soit, un acte créatif, ben, tu as la possibilité de devenir un artiste en visuel ou un praticien en visuel, si on veut. Et ça, c'est, je pense, très fort parce que c'est accessible à tout le monde. L'art visuel, il est accessible que pour les élites, à tous les niveaux. Les gens sont complexés d'entrer au Louvre, d'aller dans des galeries, parce qu'ils doivent avoir une culture. Et ils peuvent pas déchiffrer telle œuvre en rapport avec je ne sais pas quel contexte historique ou d'autres artistes. Et en fait, l'art est un domaine qui ne cesse de discriminer à tous les niveaux, pas seulement au niveau du marché de l'art, mais l'art est un facteur de discrimination sociale. C'est pour ça que je suis pour, disons, questionner la suprématie de l'art visuel sur l'art et l'ouvrir vers de nouveaux horizons, vers un art de nature en visuel qui s'imprègne dans tous les niveaux de la société. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que la question de l'accessibilité est assez importante, à mon avis.
Tu as aussi soulevé, Alexandre Gurita, la notion de créativité. Or, ça se discute aussi, cette notion. Est-ce qu'on crée vraiment ou est-ce qu'on ne prend pas tout simplement ce qui est à notre disposition pour le réassembler, puisque les choses existent déjà dans notre milieu, dans nos milieux respectifs, dans nos milieux de vie. Et en fait, on peut s'interroger à savoir même si la notion de créativité n'est pas un faux semblant et une illusion, puisque la vie elle-même, dans un sens, et l'invisuel touche beaucoup à ça, la vie elle-même recèle déjà ou fait déjà surgir de la créativité qui est déjà là. Alors, c'est quand même une question, je pense, importante, parce que Kenneth Goldsmith... lui parle souvent de uncreative writing or uncreative art, c'est-à-dire un art qui ne repose pas sur la créativité, mais plutôt sur l'observation et sur l'attention que l'on porte aux choses qui nous entourent.
En fait, je pense que c'est prétentieux de dire créatif, mais bon, c'est un des mots, des rares mots qui pour moi sont déjà un peu blacklistés en quelque sorte et qui sont obsolètes, mais inventif. Parfois, j'utilise le terme inventif. Non, effectivement, l'inventif. En fait, je distingue pas l'art de l'inventivité. Pas d'inventivité, pas d'art. Pas de bras, pas de chocolat. C'est très simple, en fait. Et cette créativité, ça ne veut pas dire ajouter à l'existant. Ça veut dire aussi composer avec l'existant, tout simplement. Mais je ne veux pas trop, aller plus loin. Peut-être que Corina, tu peux dire des choses à ça.
Je n'ai pas étudié cette question. Oui, je n'ai pas étudié cette question. Je ne l'ai pas très approfondie, mais c'est tout à fait juste. C'est une question que je me suis posée. En fait, moi, j'ai toujours vu la créativité comme une somme de détails qu'on perçoit tout au long de la vie et qu'on va venir assembler, les mettre ensemble. Du coup, pour moi, ça a toujours eu cette définition, en fait, dans ma tête. Je me suis toujours dit que la créativité voulait dire cela. Après, est-ce que le terme créativité est toujours adéquat pour décrire ce qu'on vit aujourd'hui? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que j'insiste dans le livre sur la nécessité de néologisme qui serait plus à même d'identifier les réalités nouvelles dont on fait l'expérience.
Très juste.
Soit des néologismes ou soit des mots empruntés au latin comme partor. Alors, on l'a mentionné au passage, Corinna Milahuto, mais peut-être que tu peux nous en parler davantage, de parler pour décrire les participants de partor plutôt que de participants.
Alors, le parteur, en latin, ça veut tout simplement dire celui qui va donner naissance à quelque chose. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à un terme qui était capable de s'éloigner un peu de l'idée de cette idée communiste, de tout ce qui. Et donc, j'ai voulu quelque chose qui s'éloignait sémantiquement de tout ce qu'on connaît, pour ne pas porter un jugement à partir du mot même. Déjà, le titre du livre a fait débat, Esthétique de l'art invisuel. Certains ont dit dès le départ dans les commentaires, je n'ai pas envie de le lire parce que le titre me déplaît. Donc j'aurais dû, là je me dis, j'aurais dû chercher des mots qui ne veulent rien dire pour voir si ça attire la curiosité et si ça arrête le jugement de la personne.
Est-ce qu'ils ont donné des raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas lire un livre avec un titre comme celui-là?
C'était le mot esthétique qui dérangeait parce que pour eux c'était un oxymore avec un visuel, donc qui peut-être pour eux c'était invisible. Donc c'était tout un tas d'éléments qui n'était pas en fait envisagé lors de la rédaction de l'ouvrage. Et c'est bien indiqué dans les premières pages. Mais je crois qu'Alexandre avait vu le commentaire. C'était quelqu'un, un artiste, il me semble.
Oui, exact. Oui, il y a eu deux, trois personnes qui se sont révoltées carrément contre le titre et qui disent que l'art visuel n'est pas compatible avec l'idée même d'esthétique et que l'esthétique correspond à l'art visuel et aux œuvres d'art. Et il y avait quelqu'un d'autre qui disait, non, non, mais attends, c'est une stratégie. Le titre, c'est une stratégie pour, disons, pour que les gens puissent identifier facilement quelque chose qui leur est très facile d'accès dans le monde de l'art, donc l'esthétique. Et donc ils disent, ah tiens, c'est l'esthétique de l'art en visuel, je vais lire. Et donc voilà, c'est, disons, une sorte de cheval de Troie. La couverture comme cheval de Troie, en fait, en quelque sorte.
Ben, c'est très habile, c'est bien de pouvoir susciter un débat avec ne serait-ce que le titre d'un livre. Et ensuite, il y a le contenu en plus qui s'y ajoute. Alors, c'est quand même fantastique. Déjà, seulement avec la couverture et le titre, ça suscite déjà un débat.
J'ai découvert il y a à peu près une semaine ce qu'on appelle l'esthétique.
Oui.
Il y a des gens qui disent, ah, mais c'est esthétique écrit en anglais. Mais ils disent, ah oui, toi, tu as une esthétique. C'est-à-dire, moi, mon style, je vis en fait comme je sais pas, les survivalistes. Donc, tu es dans l'esthétique de survivaliste. Enfin, l'esthétique, c'est un mode de vie. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que la réalité se complexifie avec le temps qui passe. Et comme Corinna l'a bien mentionné, il y a des nouvelles réalités qui émergent. Ben, il nous faut des nouveaux mots, tout simplement. Dans cette complexification de la réalité, je pense qu'on est. Enfin, si on ne veut pas passer à côté du monde dans lequel on vit, on est forcément obligé d'être connecté à ces nouvelles réalités. On peut les aimer ou pas, tout simplement, mais. Si aujourd'hui on pense la notion d'esthétique comme en 1815, ben c'est qu'on a juste plus de 200 ans de retard. Et que la notion d'esthétique qui s'est enrichie dans le temps, qui s'est complexifiée, etc., et qui demain ce sera pareil demain.
Et ce n'est pas seulement le cas de l'esthétique, c'est le cas de beaucoup de mots qui ont changé de sens ou qui ont tendance à changer de sens ou qui ont plus de sens en fait dans notre quotidien, dans notre vie actuelle. Et c'est pour cela que ça me fait revenir à une citation que j'ai donnée de Roland Barthes, c'était « La langue, elle est fasciste ». À partir du moment où ça ne nous permet plus de réfléchir, où ça nous met à distance, où ça nous fait surinterpréter et extrapoler à partir d'un seul titre et rejeter complètement un ouvrage à cause du titre, c'est qu'on est en plein dedans, dans cette idée d'une langue fasciste. On n'a plus de malléabilité et je pense que ça s'applique également à la créativité, à la notion de créativité que nous avons évoquée. Je pense qu'à partir du moment où on a une seule définition, ou au moins il y a une seule définition qui résonne dans les esprits du public, je pense qu'il faut changer de mot pour pouvoir avancer.
C'est clair, ouais, c'est tout est dit à mon avis. Je pense qu'on vit en fait dans un fascisme de l'art, malheureusement. J'ai calculé, en fait, les mots de l'art ne dépassent pas une quinzaine. Quel autre domaine de l'activité humaine n'a que 15 mots qui le résument? Aucun. Ce qui veut dire que l'art est le domaine le moins créatif. Dès que tu t'affranchis, en fait, ça c'est 1984, hein. Tu veux contrôler les individus, tu contrôles le langage. Tu contrôles le langage, donc tu contrôles aussi la langue, parce que c'est la langue qui définit, qui décrit, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, le langage. Et ça, c'est assez terrible. Donc je pense que les artistes sont encore un peu, ils ont juste 2 siècles de retard, grosso modo, hein, sur notre monde. Ils sont encore dans une vision un peu romantique de l'art, où ils se sentent un peu. Ils se sentent des êtres particuliers, même s'ils doivent être un peu coupés du monde, souffrir un peu si possible, même s'auto-fouetter autant que possible, et exprimer leur génie, puisque de toute façon, tous les jours, ils sont atteints par la grâce divine. Je pense qu'il faut sortir de cette logique primitive et considérer l'artiste comme un individu, comme un autre. Qui vit dans une société contemporaine en 2021 avec plein de problèmes.
Et plein de possibilités aussi.
Oui, exact, plein de possibilités, oui.
C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui veulent vivre sous le spectre de cette idée d'artiste maudit, qu'ils veulent eux-mêmes, ils veulent incarner en fait ce stéréotype d'artiste maudit. Et c'est dommage parce qu'au XXIe siècle, on a la possibilité de dépasser justement ces mythes du passé.
Oui, c'est
Si, si. Alexandre Gurita, Corinna Milahuto, permettez-moi de vous lire un extrait d'un texte, on va finir sur ça, un texte de Boris Groys, qui dit ceci: Dans la tradition chrétienne, nous l'oublions souvent, l'éthique a toujours été subordonnée à l'esthétique, à savoir au design de l'âme. Les règles éthiques, comme celles relatives à l'ascétisme, aux exercices et aux entraînements spirituels, servaient avant tout l'objectif de façonner cette âme. Plus loin, il dit, avec la mort de Dieu, le design est devenu le médium de l'âme, la révélation du sujet recelé à l'intérieur du corps humain. Il a ainsi conquis la dimension éthique qu'il ne possédait pas auparavant. Dans le domaine du design, l'éthique est devenue une esthétique, elle est devenue une forme. Le design a pris la place de la religion. Le sujet moderne s'est vu imposer un nouveau devoir, celui de l'auto-design, de sa représentation esthétique comme sujet éthique, c'est-à-dire de façonner son esprit ou son âme à partir de l'art, ce qui justifie qu'on n'a plus besoin de créer des objets visuels et esthétiques, puisque la forme qui doit être travaillée, c'est l'être lui-même et l'être de chacun de ses partors, pour reprendre le terme proposé par Corinna Milahuto. Est-ce que cette citation, je vous laisse réagir peut-être à cette citation de Boris Groys.
Moi, j'aime beaucoup Boris Groys. D'ailleurs, je pense que j'ai la plupart de ses ouvrages dans ma collection. Et donc, oui, moi, je pense que c'est tout à fait juste. Et surtout de voir à quel moment la religion a été remplacée par autre chose, le besoin de remplacer la religion, comme Nietzsche le dit, Dieu est mort. On a besoin de passer à autre chose. Qu'est-ce qui va remplacer justement la divinité? Et je pense que c'est juste. Et finalement, on se débarrasse de l'œuvre, on se débarrasse de tout pour atteindre une sensibilité particulière qui est en nous. On a un rapport différent au monde. Enfin, je pense que tu l'as lu assez rapidement, mais c'est les éléments que j'ai saisis assez, voilà, de cette citation. Mais oui, elle me paraît tout à fait juste et applicable dans le cas de l'invisuel.
Je vous remercie infiniment, Alexandre Gurita et Corinna Milahuto. Corinna, tu es l'auteur de ce magnifique ouvrage, Esthétique de l'art invisuel, paru en 2021 aux éditions du Panthéon. Merci d'avoir été avec nous à l'Aire du Diable, à l'antenne de CKUT 90,3 à Montréal.
Merci infiniment à toi de faire connaître le livre de Corinna au Canada. Il y aura prochainement une version anglaise, donc le Canada anglophone aura aussi la chance de l'avoir dans ses bibliothèques. Et c'est vrai que je pense que c'est un ouvrage qui doit circuler, à mon avis. Et donc ton invitation fait un honneur très important.
Lately, I know been cruel, like some kind of witch, some kind of vampire, like some kind of monster, some kind of fool. And yes, I know. I was down, had my head stuck on the ground. I thought that I had lost you. I punish myself daily for the past. My little mind spent most years in a cast. Back then, I was lost. I was looking at the cost of all I had done to you. Could I hold up in my eyes, spend my heavy days so high, so high up in the sky. But you were never gone, you were never gone. Cause I was always on my own, and where now look at you, you never looked so true, so truly blue.
Delancey Street Station, des artistes new-yorkais, Cloudy Love and Pink Louds, à l'ère du diable.